Merci d'être avec nous à l'écoute de RFI à 15h, temps universel, 16h, ici à Paris. Bonjour, bienvenue.
Charlotte Hydrac.
Arrêter à tout prix une escalade régionale dans le conflit en RDC. Appel du patron de l'ONU au sommet de l'Union africaine. Alors que des combattants du M23 alliés à des troupes rwandaises sont signalés à Bukavu, au sud Kivu. Une nouvelle étape de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas qui avait failli dérailler cette semaine. 3 otages israéliens ont bien été libérés dans la bande de Gaza en échange de 369 prisonniers palestiniens. À la une aussi la réponse de Olaf Scholz au vice-président américain. Le chancelier allemand, en pleine campagne électorale, dénonce les ingérences de Washington en faveur de l'extrême droite. Et puis François Bayrou face aux victimes du collège-lycée de Bétaram, le premier ministre accusé par la gauche d'avoir menti sur sa connaissance de violences et d'agressions sexuelles dans cet établissement privé quand il était ministre de l'Éducation. François Bayrou répète avoir fait tout ce qu'il devait faire. Oui, ces nouveaux appels donc à la désescalade en RDC, dossier prioritaire au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a appelé au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Alors que les hommes du M23, soutenus par des militaires rwandais, poursuivent leur progression dans le nord-est, des combattants sont signalés à Bukavu, la capitale provinciale du sud Kivu, où les habitants sont terrés chez eux. Ce samedi, des scènes de pillage ont été rapportées. Témoignage d'un commerçant de Bukavu, joint là en début d'après-midi.
Alors, les rebelles sont entrés sous l'acclamation de la population, évidemment. Alors, hier, il y a la prison centrale de Bukavu, on a libéré les prisonniers.
Et alors, quand vous dites que le M23 est entré sous les acclamations de la foule, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire ce à quoi vous avez assisté et pourquoi est-ce que la foule les acclame?
Ah, la foule les acclamait par peur. C'est pas parce qu'ils les aiment, non. C'est par peur. Ils veulent pas de représailles, quoi, en retour. Ils sont en train de les acclamer pour qu'ils voient que, bon, la foule les accompagne, mais intérieurement, la foule n'est pas contente, la population n'est pas contente d'une occupation rwandaise. Bon, dans la rue, aujourd'hui, les gens, bon, tout le monde est resté terré chez lui. Hein. Les gens avaient peur de sortir. Hein. Peut-être on peut attraper une balle perdue en cours de route. Alors les gens sont restés terrés chez eux. Je ne sais pas ce qui peut arriver dans une heure, dans 3 heures, dans 2 heures. Je ne sais pas, on ne sait pas. On est vraiment abandonné. On est abandonné par notre pouvoir.
L'incertitude totale pour cet habitant de Bukavu, joint par Amira Swilem. Paris appelle ce samedi à l'arrêt immédiat de l'offensive du M23 à Bukavu et demande le retrait sans délai des forces rwandaises. La France qui se dit prête à des sanctions. Une nouvelle étape de l'accord de trêve à Gaza. Comme annoncé, 3 otages israéliens ont été libérés ce matin à Khan Younes en échange de détenus palestiniens détenus par Israël. 369 au total. Ces 3 otages israéliens ont été relâchés avec une mise en scène organisée cette fois encore par le Hamas. Ils ont dû dire quelques mots au micro sur un podium. Tout cela suivi en direct par une foule réunie à Tel Aviv sur la place appelée Place des Otages avec émotion, angoisse aussi à Blajounaïdi.
Cela fait 497 jours que les otages sont détenus par le Hamas, comme l'indique le compteur sur la place. Mais c'est sur l'écran géant affichant les instants de leur libération que tous les yeux étaient rivés ce matin. Le Hamas a de nouveau mis en scène, vous l'avez dit, l'opération en demandant aux 3 otages, Yair Horn, Sagi Dekel Chen et Sacha Troufanov, de se tenir sur une scène et de parler au micro. Une mise en scène huée par la foule ici. Les 3 binationaux sont finalement apparus en bonne santé, visiblement. Passé le moment de joie, Osnat et Sarah, 2 amies présentes dans la foule, se mettent à douter.
Ils les nourrissent juste avant de les libérer. Ça ne veut rien dire. Et à en juger par leur visage, ils n'ont pas l'air en si bonne santé. L'un d'eux marchait difficilement. Il y a beaucoup de problèmes, sans parler de ce qu'on ne voit pas, leur état mental.
Vous savez, pour moi, ils font partie de mon ADN depuis presque 500 jours.
Ils étaient nombreux dans la foule à redouter l'état de forme des otages. Ceux qui avaient été libérés la semaine dernière étaient dans un état squelettique. Cela avait suscité une grande émotion en Israël, mais aussi l'inquiétude au niveau international, notamment de la part du Comité international de la Croix-Rouge, qui demande à avoir accès aux personnes encore détenues à Gaza.
Amla Jounaïdi, envoyée spéciale à Tel Aviv, le CICR, la Croix-Rouge vient d'appeler toutes les parties à en faire plus pour la dignité des otages et des prisonniers et pour la discrétion, je cite, dans les procédures de transfert. Quelle sera maintenant la suite de l'accord? L'armée israélienne affirme préparer des plans d'attaque sans plus de précision. Israël accusé d'avoir mené une frappe de drone dans le sud du Liban aujourd'hui, c'est ce que rapporte l'agence de presse officielle libanaise. Frappe sans faire de victimes, et cela à quelques jours du retrait en principe de l'armée israélienne dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah. Par ailleurs, plus de 25 personnes ont été arrêtées selon les autorités libanaises après l'attaque contre un convoi de l'ONU hier. C'était sur la route de l'aéroport de Beyrouth. Deux casques bleus de la FINUL ont été blessés. Le président libanais Joseph Aoun a promis de punir les coupables. Le temps où l'Amérique soutenait l'Europe simplement parce qu'elle l'avait toujours fait est révolu, déclaration de Volodymyr Zelensky tout à l'heure, au deuxième jour de la conférence de Munich sur la sécurité. Le président ukrainien l'a martelé alors que les États-Unis ont annoncé des négociations directes avec Moscou. Il n'y aura pas de plan de paix sur l'Ukraine sans l'Ukraine ni les Européens, dit-il. Autre prise de parole remarquée, celle du chancelier allemand Olaf Scholz a critiqué les ingérence de Washington. Hier, le vice-président américain J.D. Vance avait critiqué, lui, le cordon sanitaire autour de l'AFD, le parti allemand d'extrême droite. Muriel Paradan.
L'AFD banalise les crimes contre l'humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas soutenir un tel parti, affirme Olaf Scholz devant un parterre de dirigeants réunis à la conférence de Munich. Le chancelier allemand fustige donc toute tentative des États-Unis de réhabiliter ce parti d'extrême droite et toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Allemagne.
Nous n'accepterons pas que des tiers interviennent dans notre démocratie, nos élections et la formation démocratique de l'opinion en faveur de ce parti. Cela ne se fait pas, et surtout pas entre amis et alliés. Nous le rejetons fermement. La direction que prendra notre démocratie, nous seuls en déciderons.
Pour autant, Olaf Scholz ne tourne pas le dos aux Américains. L'Allemagne continuera, dit le chancelier, à acheter des armes aux États-Unis, soulignant le besoin d'une industrie européenne de l'armement puissante.
Aux États-Unis, précisément, il va sans doute y avoir du changement dans la programmation du Kennedy Center, cette institution culturelle, ce haut lieu du spectacle vivant fondé il y a 70 ans. Le président Trump lui-même a été nommé à sa tête après une purge au sein du conseil d'administration. C'est une première pour un chef d'État. Il a promis que ce lieu, ce Kennedy Center, ne serait pas woke, Carlotta Morteo.
Rien de ce qu'on pouvait y voir ne m'intéressait, a déclaré Donald Trump, qui admet n'avoir jamais mis les pieds au Kennedy Center. Immense bâtiment situé le long du fleuve Potomac à Washington, c'est l'une des plus grosses institutions culturelles américaines. Il accueille 2 millions de visiteurs par an, plus de 2000 spectacles, opéras, théâtres, concerts, ballets. C'est aussi le berceau de l'Orchestre National Symphonique. Essentiellement classique, le répertoire s'est ouvert ces dernières années à une offre plus contemporaine pour, je cite, « représenter la diversité culturelle de l'Amérique ». Ce centre a toujours bénéficié d'un soutien politique bipartisan et n'est financé qu'à 17% par des fonds publics. Mais Donald Trump justifie sa mise au pas à cause d'un spectacle de drag queen proposé l'an dernier. Donald Trump a purgé le conseil d'administration pour y placer des fidèles. La directrice de l'institution a été limogée. Plusieurs cadres artistiques ont démissionné. Who's next? À qui le tour? C'est la question qui taraude désormais le milieu culturel américain.
En France, François Bayrou le répète, j'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre, dit-il. C'était après une rencontre avec le collectif des victimes du collège-lycée de Bétarame dans le sud-ouest. Cet établissement privé catholique épinglé pour des accusations de violences physiques et d'agressions sexuelles. Entre les années 1970 et 1990, le Premier ministre est accusé par la gauche d'avoir menti sur sa connaissance des plaintes et des alertes, notamment quand il était ministre de l'Éducation. François Bayrou a promis de demander des magistrats supplémentaires pour aller au bout du travail d'enquête. RFI 16h10, ici à Paris. Restez avec nous tout de suite, tous les cinémas du monde, avec vous, Sophie Torletin et Elisabeth Le Quéré. Bonne émission.